Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie.
Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers. C'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Alors pour ceux qui rejoignent la communauté, Les Nouveaux Aventuriers, c'est une série de conversations avec des femmes et des hommes engagés qui vivent des aventures sous différentes formes. Micro, grande, entrepreneuriale, sportive ou encore humaine. Dans chaque épisode, un invité nous raconte son parcours, son déclic, ses doutes, ses joies, ses conseils, bref, son aventure. Pour ce premier épisode du Tour de France du podcast, direction Douarnenez, pour rencontrer Guillaume Legrand, le fondateur de Taute. Guillaume, c'est un pirate des temps modernes. Ce breton passionné de voile et admirateur d'Éric Tabarly a le vent en poupe. En 2011, convaincu du potentiel de l'énergie vélique, il fonde avec Diana, Taute, une société de transport de marchandises à la voile. À force de courage et d'abnégation, Taute, c'est aujourd'hui 1 000 000 de tonnes de marchandises transportées à la voile, 18 voiliers affrétés, une centaine de milliers de milles parcourus ou encore 14 transatlantiques. Et dès 2021, le premier voilier cargo de Taute devrait prendre la mer et permettre d'économiser 10 000 tonnes de CO2 par an. Cet épisode que Guillaume a choisi d'appeler « L'aventure du transport à la voile » retrace son parcours. Il revient également sur la création et le développement de Taute et sur la construction prochaine des voiliers cargo. Sans plus attendre, je laisse place à cette conversation passionnante avec Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Merci de m'accueillir à Douarnenez pour le premier épisode du Tour de France du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui car on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois lorsque j'étais en poste notamment chez Surfrider. Et j'ai trouvé ton projet passionnant et inspirant. Mais avant de parler de ton parcours, du transport maritime et plus globalement de la mer, comme le veut la tradition, pourrais-tu me dire ce que signifie pour toi le mot « aventure » ?
Merci beaucoup François d'être venu jusqu'ici au bout du monde, là où tout commence. L'aventure, allons sur l'étymologie. On travaille avec un navire qui s'appelle Aventure en néerlandais. L'aventure, c'est ce qui advient et c'est ce qu'on va chercher au vent. Donc l'aventure, c'est bien là où nous mène le vent. C'est plutôt ce qu'on est en train d'essayer de faire ici. C'est véritablement d'utiliser le vent pour aller tenir le cap qu'on s'est fixé.
C'est une définition hyper intéressante et qui revient justement à son étymologie. Et c'était aussi l'objectif de ce podcast, le mot aventure. Donc on va parler de Taute, qui est une société de transport de marchandises à la voile. Mais avant de parler de ce projet un peu fou, pourrais-tu d'abord te présenter, me dire où est-ce que tu as grandi, ce que tu as fait comme études ?
Alors, je m'appelle Guillaume Legrand, je suis né à Brest, où j'ai grandi une dizaine d'années, puis en Finistère Sud, du côté de Quimper, et c'est là où j'ai découvert la voile, entre Bénodet et les Glénans. Ce lien fondamental avec la mer était déjà là, je m'en suis rendu compte bien plus tard, ce lien... avec cette intuition de la puissance du vent. Était là, moi, dans les années 90. J'avais dû croiser le vieux Éric Tabarly sur un ponton un jour et des choses comme ça très magiques se passaient en mer. Surtout la notion de cette écoute qu'on ne pouvait pas aborder à la main. J'ai ensuite, pour des raisons familiales, déménagé en Auvergne où j'ai passé mon bac en l'an 2000. Donc, j'étais assez bon en classe. Je faisais du demi-fond, moi. Donc, j'étais sportif de D'accord. haut niveau sur... 800, 1500 mètres, cross. Donc déjà, la notion de persévérance, de rien lâcher était là. Et j'ai été pris après le bac à l'INSA en section sportive de haut niveau, donc en jeune ingénieur, en maths sup, sur un campus à Villeurbanne. Donc avec une piole qui donne sur le cimetière.
J'en reparlais...
Non, loin de là. Et j'en reparlais avant-hier avec un blondinet qui était avec moi sur ses bancs de classe, qui faisait beaucoup de voile et avec qui on était très copains. Et qui s'appelle François Gabart et que j'ai revu 20 ans après, avant-hier.
Incroyable.
Et super sympa. Et je pense que d'ailleurs, on est sur une convergence de vues après s'être quitté pendant si longtemps. Et alors moi, j'ai pas trouvé vraiment de sens dans ça, dans les maths à gogo, etc. Et je suis resté à Lyon où j'ai été pris au concours de Sciences Po. Donc, ce qui m'a quand même pas mal plu, m'a apporté beaucoup. Encore une fois, c'est a posteriori que je m'en suis rendu compte. Et ce lien à la mer et au réchauffement climatique, il y avait déjà eu Al Gore, il y avait déjà eu cette notion en fait de véritablement de finitude à la fois du pétrole qui est une énergie finie. Enfin, c'est pas c'est purement physique que de dire ça, c'est ce qu'on voyait d'ailleurs en sciences physiques déjà à l'époque, et avec la notion de réchauffement climatique qui chaque jour est plus tangible, plus évidente, j'avais l'impression d'être le seul à être un peu révolté par ça à l'époque, de me dire non mais hello quoi, enfin regardez, on est en train de danser sur un volcan là, on est en train de, et personne, tout le monde détourne le regard, et donc j'avais fait mon mémoire sur Kyoto, sur la notion du cap and trade, hein, donc on fixe et ensuite on négocie tout ce qui va au-dessus en termes d'émissions de CO2. Donc voilà, j'étais devenu un peu le spécialiste du carbone, de Kyoto à cette époque-là. Je fais mon Erasmus à Berlin, donc moi j'avais été plusieurs fois en Allemagne avant. Je serai toujours très germanophile, germanophone. Et alors au lieu de passer les grands concours des grandes écoles, j'avais compris que mon caractère n'était pas fait pour ça, que j'aurais été déprimé. Donc j'ai choisi le chemin difficile du froid, de la faim. De la foif, comme on dit sur les bateaux. Donc, je suis parti juste après mes études à Londres où je voulais un petit peu valoriser ce que j'avais fait sur le carbone. Et j'ai travaillé pendant 3 ans là-bas pour faire émerger les données environnementales, à la fois du water sur les marchés européens de l'énergie, mais aussi des projections qu'allait avoir la tonne CO2. Jusqu'à ce qu'en 2007-2008, il y a eu des fraudes et on se rend compte que tout ça n'allait pas changer le cours des choses, loin de là, il y a eu la crise, etc. Alors moi, j'ai retrouvé le contact avec la mer en Angleterre et j'étais retourné naviguer un peu. Et c'est là où l'idée véritablement d'utiliser la voile pour transporter des produits exceptionnels c'est vraiment formé.
Je me permets de te couper justement pour essayer de reprendre quelques petites étapes du parcours de ta vie que tu as commencé à raconter, ce qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que tu es parti de la mer et puis après tu l'as quitté pour y revenir. Et justement aussi, tu l'as quitté pour notamment tes études, mais aussi ton travail, même si tu n'y étais pas très éloigné. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est justement de comprendre ce déclic, c'est-à-dire à quel moment tu te dis « Bon, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de me lancer dans une aventure. » Et bon, toi, en l'occurrence, tu aimais la mer, donc c'était forcément une aventure qui allait être liée à la mer. Mais à quel moment tu as eu ce déclic, tu t'es dit « Bon, ce travail n'est pas fait pour moi, je me lance dans mon aventure. »
Alors, quand j'étais stagiaire Sciences Po dans un consulat général que je citerai même pas, mon travail avait beaucoup plu. On est très très content de ton travail, Guillaume. Viens ici, ferme la porte, j'ai quelques conseils à te donner pour réussir dans la fonction publique. Donc déjà, passe les concours. Et justement, inspire-toi toujours de précédents, ne fais pas de vagues, dis toujours non. Et comme ça, tu feras carrière. J'ai dit, ah ben merci beaucoup, monsieur le consul général, de ces conseils qu'on n'écrit pas. Hein, qui sont... Et je me souviens fermer la porte et repartir, donc mon dernier jour, mon dernier avant le pot de départ, et de me dire, non, mais j'ai complètement fait fausse route. Là, je vais me suicider dans cette carrière-là. Donc, il y avait déjà eu ce truc quoi, qui m'avait complètement détourné des rails, on va dire, à peu près classiques de ce qu'on fait. Je dis, non, moi, je suis prêt à tout remettre en cause parce que je vais être malheureux tous les matins, tous les jours, et dans le sens même de ce que je donne aux choses. Ensuite, il y a eu cette idée folle que j'ai commencé à avoir avec 3 copains d'acheter un catch de 14 mètres en 2007 pour aller chercher 2-3 tonnes, de 1 tonne, 4 peut-être, de café bio en République dominicaine. Donc d'acheter le bateau et de commencer avec quelques chiffres sur un tableur Excel à voir à combien on pourrait transporter et vendre ce café.
D'accord.
Donc en plus d'être fair trade, donc équitable, et d'être organique, donc sur les marchés bobos du centre de Londres, il aurait été low carbon. Et donc on aurait raconté avec toute une bâche, etc., là, ce café-là avec le torréfacteur qui le torréfait, et on le vendrait à la tasse. Et donc moi c'est une idée qui m'a jamais quitté depuis en fait, donc ça fait 13-14 ans maintenant. Au bout de 10 jours mes copains me disent non mais arrête, c'est bon, c'était une idée d'un soir,
c'était un délire,
voilà. Et je dis non mais tu déconnes, regarde, on peut transporter à quelques euros le kilo et on... c'est probablement la seule façon d'ailleurs au 21e siècle de continuer à boire du café, manger du chocolat ou même en général pouvoir traverser les océans pour des personnes, pour des biens, de façon véritablement respectueuse de l'environnement. Mmh. Un bateau est un système énergétique complètement autonome. On ne peut pas mettre d'énergie renouvelable sur un bateau. Et aujourd'hui, seul le pétrole a l'intensité énergétique nécessaire pour déplacer sur de grandes quantités de marchandises. Et à partir de là, moi, je sais que j'ai eu complètement ce flash. D'accord. Et que ça ne m'a plus jamais quitté. Il a fallu que je survive, parce que c'est pas, on ne vit pas avec une idée. Hein. Pendant des années, j'ai un peu travaillé de nuit pour le compte d'énergéticiens, etc. Mais déjà, j'avais complètement en germe la création de Tao Transport à la voile. Et j'ai rencontré, 3 ans plus tard, le premier voilier, donc de plus grande taille, parce qu'en fait, il ne faut pas le faire avec 3 copains sur un bateau de 14 mètres. Il faut le faire avec un équipage de 10 personnes sur un bateau de 35 mètres et chargé 30 à 40 tonnes. Là, on se rend compte qu'on a des choses qui peuvent se passer. C'est ce qui a commencé à se passer avec Fer Transport très sombre dès 2010. Nos premiers affrètements de ces navires-là en 2011. Et depuis, j'ai plus touché le sol. Hein.
C'est justement ce qui est hyper intéressant. Alors, juste avant d'aborder le sujet de Tote, comment réagit ton entourage ? Donc, tu as un petit peu parlé de tes amis.
Arrête, Guillaume, arrête.
Est-ce qu'ils t'ont pris pour un fou ?
Tu nous saoules avec ton idée, là. Ah non, mais j'étais le relou. Non, mais à tous les Noëls, à tous les soirées avec mes copains, je ne pensais qu'à ça. J'étais complètement dédié à ça. Je passais la moindre minute de temps libre à étudier les différents bateaux existants. Hein. C'était notre grand choix, nous, hein, d'utiliser des bateaux existants pour transport. Donc, les 150 bateaux de classe A, donc des 3, 4, 5 mâts carrés de plus de 80 mètres qui existent. Alors, la plupart appartiennent à des marines nationales, d'autres quand même à des fondations de sail training. Donc, les avoir tous contactés. Donc, moi, j'étais...
Ils doivent halluciner aujourd'hui.
Non, mais mes parents... Mais Guillaume, arrête, t'as des diplômes. Tu peux encore faire quelque chose de ta vie, là. T'es en train de partir complètement sur le wild side, là.
C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que t'as pas lâché. Et on y reviendra tout à l'heure sur, justement, ce qui t'a animé dans ce projet. Ouais. Mais c'est quoi, là, t'as eu cette persévérance-là qui fait qu'aujourd'hui, bah, t'en arrives, et on va l'aborder aussi, à construire des voiliers cargo. Ce qui
c'est
est
ça.
Complètement
mais alors,
dingue.
Dès le début, l'idée était de dire... De toute façon, on vit dans notre temps. Hein. Utiliser des voiliers d'un autre siècle, ça n'est pas un anachronisme, un retour en arrière, une nostalgie ou une sorte de performance, une reconstitution historique. C'est les seuls navires ayant suffisamment de capacité, étant principalement propulsés à la voile qui existent. Et en ça, on a énormément de chance que certains, très peu, hein, finalement, d'entre eux survivent encore. Mmh. Et on va les utiliser, les affréter pour les remettre dans leur métier d'origine. Hein, aujourd'hui, s'ils sont là encore, c'est parce que certains sont quasiment des musées flottants ou des écoles flottantes ou oui, pour eux, c'est ça, ou des passagers, voilà. Donc, alors qu'ils étaient tous, on va dire des voiliers de charge ou de pêche, donc des navires de pêche qui chargeaient, donc qui transportaient leur pêche aussi.
Hein, donc ça, c'est à partir de 2011, tu commences à affréter des
navires.
Octobre
2011, on fait venir très sombresse à Brest avec 10 palettes de bière anglaise bio et qu'on distribue dans une vingtaine de biocoops du Finistère en disant c'est bas carbone, c'est exceptionnel, ça a traversé la Manche, c'est juste en face la Manche, c'est notre région, on doit s'approprier cette façade océanique et la voile est la seule à même de transporter ces marchandises sur de grandes distances.
On peut dire que tu fais du neuf avec du vieux quelque part.
Tout à fait. Mais on l'a toujours assumé. Ça a pu faire l'objet de décrédibilisation, de moquerie, etc. Mais dès le début, moi, je relisais des témoignages de 2011, là, ou des articles. Non, nous, on fait ça comme premier étage de fusée. Hein. On remplit bien ces bateaux, on trouve un modèle, on solidifie la structure, on trouve un label, puisque c'est... on y viendra peut-être tout à l'heure, mais nous, il s'agit bien de différencier à nouveau, de réinternaliser sur le marché l'externalité positive, cette fois-ci, du transport à la voile, pour lever des fonds et, avec un effet levier important, aller vers le deuxième étage de fusée, qui sera la construction des grands voiliers cargo modernes. On appelait ça des cargo-voiliers, maintenant on appelle ça des voiliers cargo. Donc c'est une nuance qui est très importante, je pense. On ne savait pas encore que ça allait être 70 mètres, que ça allait être 1000 tonnes, 10 nœuds, etc. Et je me souviens très bien qu'en 2011, on se disait qu'en 2013-2014, ce serait fait. Qu'il y aurait déjà les premiers cargos voiliers modernes à l'eau et qu'on était véritablement juste à la veille d'une révolution, hein, que le monde était en train de changer. La crise montre que le prix du pétrole à l'époque était hyper haut et on se disait c'est le moment où tout est en train de se passer.
Quand vous faisiez justement sur la partie affrètement, parce que maintenant vous allez passer sur un autre modèle, mais le transport maritime ça implique quand même une logistique très importante. Oui. Donc du chargement au déchargement, concrètement, comment ça se passait rapidement? Est-ce que tu peux nous le décrire?
Au début, on n'avait pas de clients. Et on avait un à deux bateaux qui voulaient bien travailler avec nous et qu'on affrétait. Donc c'était des affrétements au voyage. Hein, au début, on se tapait dans la main. Hein, et puis ensuite, on faisait quand même des contrats d'affrétement au voyage, et puis à temps, des contrats d'affrétement à temps, donc en fonction du nombre de jours qu'on affréterait le navire. Ou ensuite des contrats d'affrétement coq nu. Donc coq nu, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est le bateau et on y apportait les marins. Donc on est déjà pseudo-armateur. Quand on n'avait pas de clients, on était nos propres clients. Hein, ici, je me retourne, on a quelques produits qui sont là, c'est-à-dire qu'on achète des produits dans un port dont le terroir, la région, l'arrière-pays est particulièrement représentatif commercialement de quelque chose. Hein, là, ça peut être donc... Bordeaux est aussi un port, n'est pas que du vin. Le Muscadet, c'est aussi Nantes. Ou le Devon et ses bières bio, en 2012, avaient un vrai sens, de même que le café colombien ou le rhum de République dominicaine ou de Guadeloupe. Donc on achète des quantités importantes de produits qu'on transporte à la voile et qu'on valorise parce que transporté à la voile, parce que exceptionnel en tant que d'une origine exceptionnelle et parce qu'on choisit des bons produits et qu'on... très souvent bio quand c'est possible.
Oui, c'est ça, vous choisissiez aussi vos produits. Enfin, il y avait une démarche,
donc on était dans le sourcing
bout,
intégralement. On était donc propriétaire des produits là-bas.
D'accord.
Et donc on commençait à faire ce qu'on appelle la liasse documentaire. Hein, donc c'est quelque chose que... Donc on apprend le métier en faisant, véritablement. Hein. On se casse les dents une fois ou deux. Hein. Sur certains certificats, sur la spécificité des alcools notamment. Mais enfin, on se casse les dents. On apprend... on fait un équivalent de 3 ans après le bac en 2 heures dans un bureau des douanes ou ce genre de truc en se faisant sacrément engueuler. Mais depuis, on apprend, on prend les agréments, on connaît les textes, on connaît les règles du jeu. Et donc, puisqu'on arrive à transporter pour compte propre X palettes de bière ou de rhum ou de vin et à bien les vendre, on connaît l'ensemble de la réglementation sur les droits spécifiques, ça s'appelle les accises. Quand... En 2014, un importateur anglais, Raymond Reynolds, c'est son nom, nous demande de transporter pour son compte 15 palettes de Madère, depuis Madère donc, jusqu'en Angleterre. Vu qu'on a déjà été dans sa position, de savoir comment ça allait se passer d'un point de vue douanier, de quel était le type de risque, les assurances, hein, les dockers.
Docker, évidemment, c'est justement quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération, tout à fait.
Donc nous, on a beaucoup été dans les petits ports où il n'y a pas besoin des dockers. Et où finalement...
Et comment vous faisiez justement cette solidarité?
Quand on a 15 palettes et qu'on a 8 marins et qu'on a 27 ans et qu'il y a du monde sur le quai et qu'on dit « Allez, messieurs, dames !» On a même fait parfois des... On décharge les 15 palettes en 3 heures.
Ouais, je me souviens de photos il y a quelques années. Je voyais les photos où vous déchargiez... Il y avait cette forme de solidarité, de chaîne humaine presque pour décharger le navire.
C'est vraiment ça. Ouais. Et en fait, une chaîne humaine décharge très vite. Quand elle est bien organisée, quand il y a un vrai flux, nous, on compte environ une dizaine de tonnes à l'heure. Ce qui est pas mal. Hein, et c'est pas très fatigant. Alors le problème, c'est quand on n'est pas assez, ou après, c'est aussi en vieillissant, ou quand vraiment, il faut aller au-delà des 30 tonnes. Donc nous, on a rempli en 2012 à Roscoff, je me souviens très bien, 38 tonnes sur Tresson-Bresse en 4 heures. C'était un vrai marathon. Mais il y a une notion d'avoir un sens fondamental dans ce qu'on fait. Et donc voilà comment on faisait. Aujourd'hui, c'est quand on va dans des gros ports, parce qu'on y est obligé, notamment sur le grand métier que sont les transatlantiques, sur des produits bio, ce sont les dockers qui font ce travail-là. Mais les dockers, c'est des gens qui travaillent bien, qui ont bien travaillé. Donc cette capacité logistique, douanière, documentaire, légale, et puis rapidement reviennent les vieux réflexes de Sciences Po. On me dit « Ah non, mais c'est pas possible, ça, monsieur Legrand, notamment le détail des voiliers français, division 242, 244, donc les navires à utilisation collective, à utilisation commerciale maintenant, il est dit dans la loi que ces navires n'ont pas le droit de transporter de marchandises à l'exception des bagages et de l'avitaillement. »
Donc au niveau juridique, il y avait aussi une difficulté.
Ah, mais c'est pas, vous n'avez pas le droit. Je sais pas quand même, là, il y a un voilier de 35 mètres qui est vide, qui transportait 120 tonnes de poissons il y a 60 ans. Vous me dites que j'ai pas le droit de mettre 15 palettes de vin dedans. Ah non, c'est pas possible. Je sais pas, on va voir ce qu'on va voir. Et donc, les grosses questions écrites au Sénat, à l'Assemblée, le mailing, les députés, etc., les cabinets des ministres. Et puis c'est vrai, pourquoi il n'y aurait pas le droit? Pourquoi on empêche l'émergence d'une activité sur des navires? Donc en fonction de certaines règles maintenant, depuis 2017, donc quasiment après la bataille, il y a bien une réglementation qui prévoit un cadre qui dit ce navire-là a transporté X, et grosso modo, aujourd'hui, vous avez le droit de transporter un demi-X, on va dire, parce qu'on considère ça safe dans la mesure où certaines conditions sont posées.
Donc une réglementation dont vous êtes à l'origine finalement.
C'est ça, on a changé la loi et puis surtout on se dit c'est possible de changer la loi.
C'est une petite question sur le sourcing des produits et sur les routes exploitées. Est-ce que tu peux m'en dire juste un petit mot? Alors, quelle route maritime vous avez retenue et pour quels produits? Ce qu'on voyait, c'est justement qu'il y avait vraiment un fil conducteur. C'est-à-dire que vous transportiez à la voile, donc un mode de transport décarboné, et vous preniez des produits qui respectaient aussi, j'imagine, l'environnement, enfin le plus possible en tout cas.
Tout à fait. Alors, on a commencé petit, hein, donc c'était de l'intra-européen, du transmanche, avec le Devon, donc c'était Exmouth, c'était Brixham, vers Douarnenez ou Brest. Et c'était des real ales, hein, donc des bières de microbrasserie anglaise. Donc dans leur spécificité, il n'y avait à l'époque pas grand-chose de très bon en bio, même rien du tout en fait, ni en Bretagne ni ailleurs en France. Et on a cartonné, hein, parce qu'on était particulièrement représentatif des maltes, des orges et d'une façon de brasser. Puis on est rapidement allé à Nantes, parce qu'en fait c'est quelque chose qui nous correspond, avec les vents dominants, avec cette idée de Bretagne et cette proximité. C'est en 2-3 jours, on est à Nantes. Ici, il n'y a pas de vin en Bretagne, et les Bretons aiment beaucoup le vin. Auprès des premiers vignerons bio, donc on a commencé à définir des critères d'éloignement terrestre, hein, par rapport au lieu d'escale du navire. Des produits bio, quand c'était possible, et des produits ensuite qui faisaient le choix aussi subjectivement de qualité organoleptique. On choisissait des produits en fonction d'une gamme qu'on construisait. Il y avait des trucs qu'on rejetait et d'autres qu'on gardait parce qu'on les aimait bien. Parce qu'ils étaient représentatifs aussi d'une histoire, d'une personne, souvent. Hein, donc Nantes, Bordeaux dès 2014. Et puis le Douro, donc c'est le Porto. Et les Açores, sur le thé, on a encore beaucoup de thé des Açores. On est des gros importateurs de thé. Donc c'est le seul thé européen. Donc c'est intéressant. C'est pas qu'en fait, il y a les Açores, ça dépend du Portugal. Et en fait, ils font beaucoup de thé là-bas. Enfin, il y a une plantation avec laquelle nous, on travaille très, très bien. Donc, plusieurs centaines de kilos, plusieurs tonnes de thé qu'on vend ici sur le continent, qui est véritablement zéro carbone. Donc, ça, c'est reste encore les eaux européennes. Et puis, du Madère, donc je l'évoquais. Et rapidement, en même temps, avec Très Sombresse qui déjà faisait ses transatlantiques, on a eu du rhum, du chocolat. Donc, on commence à parler des grandes Antilles, République dominicaine, Haïti, et des petites Antilles avec déjà les liens avec la France, donc, hein, avec la Guadeloupe surtout, où nous, on fait venir 12 barriques de rhum en 2016, qu'on met en bouteille, qu'on dilue. Et donc, c'est des choix qui, à chaque fois, sont en cohérence géographique et carbone avec le bateau, et en cohérence... Évidemment, j'allais dire avec une production artisanale et naturelle, garantissant des produits de qualité, on ne transporte pas de MERDE à la voile. Hein. Il s'agit évidemment de valoriser des produits ayant déjà une très forte valeur, extrêmement noble, etc. S'il y a un produit X à transporter de A à B pour le compte de quelqu'un qui le fait pour des bonnes raisons, que ce n'est pas bio parce que ça ne peut pas l'être, parfois on a fait par exemple du sel, beaucoup, on a fait plusieurs dizaines de tonnes de sel. Le sel est un produit minéral, il n'est pas labellisé bio, bon, la question ne se pose pas. Hein. Puis rapidement, nous, on a eu comme client, donc pour compte de tiers, Biocop, donc la question ne se posait pas. On a eu des 15-20 000 bouteilles de vin depuis Porto jusqu'à la Bretagne, avec le label, hein, qui était déjà présent, qui devait
être apposé.
Justement,
ce label, j'allais y venir. Ouais. Donc, vous apposez un label sur chacun de vos produits qui s'appelle Anemos, c'est ça ?
C'est ça. Alors, dès le début, en germe, était l'idée des voiliers cargo modernes et l'idée du label. D'accord. C'est-à-dire que rien ne ressemble plus à un produit X transporté de façon carbonée qu'un même produit X transporté de façon décarbonée. Et finalement, cette opacité du transport maritime ou d'ailleurs terrestre moderne fait que nous tous, payeurs finaux de ces transports-là, n'avons même pas, en tant que citoyens ou consommateurs, la possibilité de choisir un produit qui serait transporté de façon plus sobre. Non, cette information-là n'existe pas, ou plutôt nous est complètement confisquée. Elle fait l'objet du connaissement, c'est-à-dire d'un secret industriel. Et circuler, il n'y a rien à voir. En tant que consommateurs finaux, on n'a pas le droit de choisir ou de préférer un produit par son bilan carbone réduit. Donc nous, tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on puisse, sur un produit transformé, tel qu'une bouteille de vin, non transformé, tel que le vin dans la barrique, qu'on puisse concéder un label que chacun reconnaîtrait, qui puisse montrer que ce produit a été transporté à la voile. Donc dès le début, on collait des étiquettes, on disait transporté à la voile dans le respect de l'environnement. Et en gage de confiance, on donnait un numéro de voyage avec lequel on peut retrouver en ligne la trace GPS du navire, la navigation, le journal de bord, les vents, et une évaluation de l'impact carbone, la capacité à réduire le carbone global en tonnes et unitaire en grammes par produit transporté. Et en fait, c'est devenu Anemos en 2017. Anemos, d'accord, parce que donc il fallait faut pouvoir nommer les choses. On ne peut pas juste dire transporter la voile dans l'ancien environnement. C'est une, ce qu'on appelle une description générale qui ne peut pas être protégée avec un cahier des charges, etc. Nous, il y a tout un cahier des charges sur la façon dont on navigue, la façon dont on n'allume pas le moteur, notamment, et dont on documente les choses. Donc, Anemos, depuis 2017, il y a eu des centaines de milliers de produits qui ont ainsi été labellisés et qui permettent au consommateur final de trouver ces informations-là, qui sont de plus en plus aboutis, de plus en plus...
Et qui sont de plus en plus aussi recherchés par les consommateurs là, en termes de transparence.
Mmh. Et donc c'est bien ça qui fait que sur le marché, on peut trouver des produits qui, sont, qui ne disent pas le transport par cargo est mauvais, qui disent nous on fait du transport à la voile. Mmh. Donc choisissez nous ou pas. Et en creux, et c'est pour ça qu'on a, je pense, un petit succès commercial aujourd'hui, des chargeurs, on parlait de Semois là, ou Belco sur les cafés, ou Longto sur le rhum, des chargeurs qui comprennent bien que si le produit vaut le coup d'être transporté à la voile, c'est aussi parce que c'est un très bon et très beau produit. Et qu'on ne triche pas avec les voiliers cargo ou les voiliers existants. Soit on est à bord, soit on n'est pas à bord. Hein. Soit on ment, soit on dit la vérité, soit on fait du greenwashing, soit on fait du transport à la voile. Et cette réalité tangible en tonnes parle beaucoup, je pense. Donc nous, dans cette capacité qu'on a à raconter ce qui se passe en mer. Hein. Donc donner cette information-là. Pour terminer sur l'histoire du label, longtemps on a regardé du côté du label bio, parce que finalement c'est très intéressant ce qu'ils font en bio depuis les années 70, ou le label équitable. Et on a un peu épuisé le sujet. Hein. Le label bio est évidemment un label agricole, le label équitable, un label d'économie locale. Avant que du coup on se dise qu'il faut qu'on construise ex nihilo notre label face à l'opacité du conventionnel carboné, nous il faut qu'on ait de la transparence des carbonés.
Comme l'ont eu la même démarche en fait que les labels qui ont été créés, que tu viens de nommer sur le bio ou
oui,
le commerce équitable.
Oui, mais à leur niveau, au niveau de l'agriculture, on ne met pas de pesticides, d'insecticides, d'herbicides, ou équitable, on reverse par kilo de café 20 centimes.
On n'utilise pas de fioul lourd.
C'est ça, tout à fait.
Alors on va en revenir sur le sujet qu'on a évoqué un petit peu tout au long de cette discussion, c'est sur le voilier cargo.
Oui.
Parce que ça y est, comme je le disais tout à l'heure, le rêve devient un petit peu réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la concrétisation de ce que tu avais imaginé dès le début de ton projet. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette annonce qui a été faite là il y a très peu de temps ?
Comment dire ? Je vais juste peut-être reprendre en 3-4 phrases d'où ça vient le voilier cargo, pourquoi on a choisi cette taille-là, etc. Hein, en 2012-2013, nous, avec nos bateaux de 20-30 mètres qui transportent 20-30 tonnes, 3-4 nœuds avec 10 marins, on nous apporte des technologies du futur venu du 22e siècle de 150 mètres, 130 mètres, transportant plusieurs milliers de tonnes à des 15 nœuds. Et puis, comme un drôle d'impression de grand écart, de comment on va y arriver, comment on va aller là-bas. Et avec un peu cette analyse d'une taille de ces navires du futur de plus de 100 mètres, qui est, je le disais assez tôt, est trop grosse. Donc c'est très risqué d'un point de vue financier. C'est un tour de table qui est très très difficile quand on a plusieurs dizaines de millions d'euros par navire qui n'ont pas de prix de revente, qui n'ont pas de taux de fret vraiment très clair, etc. En plus, commercialement à vendre, quand on transporte plusieurs milliers de tonnes, il faut aller voir des chargeurs qui sont immenses et qui sont toujours nivelés par le bas d'un point de vue prix dans le shipping. Il faut que ça coûte pas cher. Le seul intérêt du transport, c'est qu'il coûte rien. Nous, subitement, on dit on va faire des choses qui ont de la valeur. Donc, est-ce qu'on reste à tricoter notre dentelle avec quelques palettes par-ci, nos chaînes humaines et nos bateaux du patrimoine qui... une fois par an, traverse l'Atlantique, et ce côté complètement déphasé de la réalité de ces 100 000 porte-conteneurs qui, à 20 nœuds, transportent des milliards de tonnes de façon omniprésente. Le conteneur est déchargé en 30 secondes par des portiques. Ou est-ce qu'on essaie d'aller vers quelque chose en construisant une proposition de valeur commerciale qui soit claire ? Et donc, l'idée d'un bateau de 60 mètres, 1000 tonnes pour 10 nœuds de moyenne, avait émergé dès 2014. C'est-à-dire, c'est la middle step, quelque chose d'intermédiaire par rapport au taux de fret. Donc les taux de fret, c'est les coûts de transport actuels sur vieux gréement. On va être capable de les diviser par un facteur de 4, 5, 6,
ce qui est déjà énorme,
et on va dire on est plus cher que le cargo conventionnel qui ne paye pas ses externalités négatives par le réchauffement qu'il crée. Mais ça, c'est un discours environnementaliste.
On verra par la suite.
Mais on verra par la suite.
Vous ferez peut-être évoluer la législation.
Rira bien qui rira le dernier, en plus, parce que on n'est pas du tout... On va avoir un taux de fret qui va se compter en quelques dizaines de centimes d'euros par kilo. 30, 40, 50 centimes par kilo. Et on pense qu'avec ce type de taux de fret-là, on peut transporter plusieurs milliers de tonnes pour le compte de belles boîtes familiales, généralement de gens qui peuvent décider que leur beau café, leur beau cacao, leur beau cognac, leur beau rhum... là récemment, leurs beaux cosmétiques ou textiles qu'on a, vont venir à la voile parce qu'il y a un beau label de transparence et que c'est la seule solution pour eux, notamment de sourcer des choses lointaines. Et donc, on y met toute notre énergie et tout notre argent et tout ce qu'on peut faire de mieux depuis 2015. Depuis 2014, on a eu un soutien de l'ADEME en 2015 sur 2015-2016. Et on travaille avec un cabinet qui s'appelle H&T, Herskovitz et Toby à Nantes. On a réussi à lever des fonds, nous, en 2019. Donc, on est très contents. On se fait au capital, n'est-ce pas? Parce que quand même, il faut utiliser les outils. C'est pragmatique. Je veux dire, on n'est pas là
bien sûr, pour... pour un but noble.
Tout à fait, tout à fait. Non, mais le but, c'est de sauver la planète, grosso modo. Donc, ou du moins de pouvoir envisager un 21e siècle où café, chocolat, où des échanges commerciaux, dont culturels et humains, pourront continuer d'avoir lieu sans être en permanence en perfusion de pétrole, grosso modo, ou pire, de GNL. Je ne sais pas si on y reviendra.
On y reviendra après. Ouais.
Donc, on a fini ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt auprès d'une vingtaine de chantiers. On en a présélectionné 5. Et donc, demain, 16 juillet 2020, on lance un appel d'offres auprès de ces 5 chantiers européens pour la construction de 4 navires. Donc, les plans sont finalisés et on est très contents. On annonce que Semoy, les chocolats, seront à bord, que Belco, les cafés, sont à bord, Longto, j'en parlais. Et aujourd'hui, on a par exemple Picture organiques qui font donc du textile sont également à bord vers New York, donc on est très content d'avoir ces chargeurs qui sont quand même importants, c'est énorme,
et qui vont en amener d'autres probablement par la suite,
qui vont en amener d'autres, qui eux-mêmes peuvent en mettre plus et donc qui font ce choix parce qu'ils sont capables de décider de ça pour des raisons de transmettre à leurs enfants peut-être des entreprises, une activité qui sera véritablement pérenne. Donc le rêve devient réalité, oui, mais on est sur l'Everest là, donc on est en pleine ascension,
bien sûr. Et la mise à l'eau est prévue pour, est-ce que vous avez une date après d'envisager ou pas encore?
Fin septembre, on choisit le chantier et en octobre, on signe, on pose la quille à la fin de l'année.
D'accord.
La quille, donc on commence les travaux et on met à l'eau à la fin 2021. Et donc, c'est en 2022, on a des produits Anemos dans les rayons des magasins français, du chocolat notamment, du café. On a beaucoup de pression, mais c'est de la bonne pression motivante.
Bien sûr, c'est un projet qui est vraiment, pour le coup, comme je te le disais, moi je suis depuis quelques années, et c'est vraiment hyper intéressant de voir cette concrétisation. Et justement, pour conclure sur cette partie transport à la voile, donc en quelques chiffres, c'est combien de marchandises transportées, combien de...
Oui, en 2017, on a transporté jusqu'à 250 tonnes par an, toutes routes confondues, transatlantique. Donc 250 tonnes sur des vieux gréements, c'est de la sueur. Et c'est bien, on est digne, on est content de l'avoir fait. En tout et pour tout, depuis 2011, on a transporté 1 millier de tonnes. On a affrété 18 voiliers existants. D'ailleurs, on parle plutôt de voiliers de travail que de vieux gréements, parce que c'est ce que c'est. Ce sont des voiliers de travail. On parle de vieux gréements aujourd'hui, mais on n'en parlait pas comme ça quand ils ont été mis à l'eau. C'est des bateaux qui ont un relais à nous transmettre et beaucoup de choses à nous enseigner. Donc, c'est une centaine de milliers de milles de parcourus. C'est 14 transatlantiques préparés. Donc, c'est... En transmanche, on a été sur une trentaine de transmanches. Et donc, le voilier cargo, lui, permet de transporter 1000 tonnes en une fois. Donc, va à 10 nœuds, traverse 8 fois l'Atlantique par an. Et c'est ça, véritablement, un peu l'objectif aujourd'hui. Sachant qu'on n'est pas non plus à tourner une page et à renier ses ancêtres qui nous ont fait, mais au contraire, non seulement à les rendre dignes par un peu la descendance qu'on leur apporte, d'une certaine façon, de remettre la voile dans le travail véritablement au XXIe siècle, mais aussi parce que, notamment avec certains d'entre eux, on veut continuer de travailler avec ces équipages, avec ces bateaux, parce que ça nous intéresse pour des routes secondaires ou même pour certains services spécifiques d'avoir ces bateaux avec nous. Voilà sur les grands chiffres, sinon. Ces navires iraient 4 fois par an à New York, 4 fois par an sur Pointe-à-Pitre et Colombie-Mexique, Amérique centrale, et 3 fois par an à Abidjan.
D'accord.
Donc ça fait déjà 11 mois occupés par an, avec là la route du Brésil, sur laquelle on est plein de café également, à Santos, et la route de l'Éthiopie, donc via Djibouti, de café également, où on est plein, donc dès la première année. Donc on ne s'ennuie pas.
Je te propose de prendre maintenant un peu de hauteur sur ce sujet et d'évoquer un peu la stratégie maritime de la France. Donc on l'a appris il y a peu de temps, la France vient de se doter d'un ministère de la mer. Alors quelle a été ta réaction par rapport à ça, et qu'est-ce que tu en penses, toi, du ministère de la mer?
Alors, je crois que les décrets d'attribution ne sont pas encore signés.
Pas encore signés,
et qu'on
aussi,
les attend.
À ma connaissance.
Non, mais alors, Annick Girardin en elle-même est une femme que j'apprécie énormément. Je trouve qu'elle a un parcours politique, mais même humain, assez exemplaire. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était, ce qu'elle a pu faire à l'outre-mer était vraiment bien. Et que j'espère, surtout que depuis le début des années 80, avec le pain sec, on n'avait plus de ministre de la mer, donc on sait plus trop ce que c'est. Là, subitement, la mer devient un sujet. Donc c'est quelque chose qui nous semble important. On verra ce qu'il en adviendra, ce qui sera à l'intérieur de ce sujet-là. Je sais de sources sûres, de par son directeur de cabinet, que le transport maritime en fera partie. Donc ce sera bien Annick Girardin qui gérera les questions de transport maritime. Et donc on est ravis de ça. C'est une vision elle-même de Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, elle-même a une notion de la France maritime. Hein, souvent, on peut déplorer, comme disait Tabarly, que la France est un pays très continental et de la mer n'est que ce qu'on a dans l'eau quand on regarde la plage, qu'on a perdu à Trafalgar et que voilà, on se projette vers l'est et que finalement, deuxième domaine maritime mondial, on a du mal à se comprendre comme puissance maritime. On l'est, on peut l'être. À la limite, je ne parle pas des aspects marine nationale ou des aspects exploitation des fonds marins ou de la pêche. Tout simplement, la France est dans un moment, à mon avis, historique unique, où il y a plusieurs projets de transport à la voile qui existent, où on a des DOM, des départements et régions d'outre-mer, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, qui sont absolument stratégiques. Saint-Pierre-et-Miquelon, pour nous, est une escale très intéressante, parce qu'on sait que on va avoir un contrat de sirop d'érable et d'autres choses vers le Canada, enfin depuis et vers le vers Québec en l'occurrence. Et donc je parlais de New York, où on a nous des contrats à l'export de différents produits typiquement français qui sont très demandés à New York. Ça nous permet d'alterner tantôt entre le Saint-Laurent et donc justement New York, New Jersey. Et idem pour la Guadeloupe, Martinique, qui sont une évidence pour nous d'une entrée dans la... Donc, je pense que c'est une stratégie là qui commence à s'esquisser en France, qui est assez ambitieuse. TAO Transport à la Voile fait partie d'Armateurs de France depuis 6 mois. Donc, on fait aussi, d'une certaine façon, partie d'une grande famille. Et c'est facile, quand on n'a pas de bateau, de dire que les grands bateaux polluent beaucoup. Il faut comprendre que le maritime fait ce qu'il peut, hein, d'une certaine façon. Par contre, personne ne m'enlèvera ma liberté de dire que du CO2, c'est du CO2, et que du CH4, c'est du CH4, et que le CH4 réchauffe encore plus l'atmosphère que le CO2.
Justement, hein. J'allais y venir. C'est, comment tu expliques, toi, parce que, voilà, moi, j'ai aussi travaillé un petit peu sur ces sujets-là, ce manque d'ambition à toutes les échelles, hein, parce que justement, c'est pas qu'au niveau français, mais au niveau international, au niveau européen. Là, je sais pas si on l'a dit, mais 90% des marchandises sont transportées par voie maritime, mais qui utilisent essentiellement en carburant du fioul lourd.
Oui.
Donc, comment toi, tu expliques qu'au niveau environnemental, il y a aujourd'hui assez peu d'ambition sur ce sujet? Je rappelle aussi que le transport par maritime ne figure pas dans l'accord de Paris, celui de la COP21.
Tout à fait.
Comment tu le, toi, comment tu
il
vois
ne
les
figurait
choses
pas
par
dans
rapport
Kyoto. En fait, il ne faut pas comprendre le transport maritime comme un bateau avec un moteur au pétrole qui pollue beaucoup. Il faut comprendre le transport maritime comme l'essence même du capitalisme, hein, et de la mondialisation. Si aujourd'hui l'économie financiarisée mondiale prospère, c'est parce qu'on est capable, à coût quasi nul, d'avoir un appareil productif au sud, dans des pays à faible revenu, où ils sont revendus à forte valeur ajoutée au nord. À partir du moment où on veut se payer, entre guillemets, un transport maritime peu cher, il faut pouvoir lui fournir tous les compromis. Les armateurs aujourd'hui se permettent d'être des maîtres chanteurs fiscaux avec les États au niveau des pavillons à tous les niveaux. Hein, pas un seul des 4 gros armateurs européens payent d'impôts, il faut savoir ça, hein, y compris le plus gros français auquel on peut penser. Ce sont des maîtres chanteurs au niveau des ports. Ah bah, si Le Havre n'est pas content, bah je vais à Amsterdam ou à Rotterdam ou à Anvers. Et donc, on est en permanence dans un moins-disant social, idem avec les marins. Hein, l'OMI, donc l'Organisation Maritime Internationale, a un système de décision qui est fait pour ne pas en prendre ou être systématiquement aller
sur du droit mou,
notamment environnemental. Et on est dans le régime qu'on appelle de Montego Bay, de la Convention de Montego Bay de 1984, qui dit que les eaux internationales n'appartiennent à aucun État, ou appartiennent à tout le monde plutôt, et ne peuvent pas être réglementées par un État en particulier. N'oublions pas que la deuxième industrie du monde, c'est le transport maritime, que l'armement, c'est des milliards, enfin, c'est des milliards de tonnes, mais c'est des dizaines de milliards de chiffre d'affaires, et que Le transport maritime ne gagne pas véritablement d'argent. Il ne faut pas oublier ça. Hein. C'est un outil de défiscalisation vers différents dispositifs d'amortissement que chacun des pays des grands armements ont. Hein, donc véritablement les grands pays européens, qui sont en gros en tête, hein, plus que d'ailleurs les autres continents, se payent de grands armements pour affirmer leur puissance économique, et donc dans leur capacité à aller chercher à coût marginal nul les produits dans les pays du Sud. Donc c'est pas le transport maritime n'a pas forcément une vraie utilité économique. Il se justifie puisqu'il il ne fait pas que représenter, mais il incarne, il est le squelette du système. On a vu que le Doliprane, là, ou le paracétamol, on veut le relocaliser en France. On a vu Montebourg ou le slip français. Est-ce que on va, avec l'accélération de l'histoire qu'on voit avec le Covid, là, plutôt vers productions qui redeviennent locales? On sait faire des t-shirts et du paracétamol en France. Hein. Si le transport maritime était plus cher, on le ferait. Donc, est-ce qu'on va vers des navires plus petits, des dessertes plus proches des centres économiques où il y en a besoin, peut-être des bateaux qui vont moins vite et un transport qui se justifie le plus, qui reviendrait un peu à rebours du gigantisme et un peu des géants au pied d'argile, parce que les géants ne s'affaissent pas doucement, hein, les géants s'effondrent. Hein. Voilà, je ne peux pas non plus lire l'avenir, mais je pense que nous, à notre niveau, avec nos bateaux de 60 mètres, pour 1000 tonnes à la voile, on a une vraie carte à jouer actuellement. Donc, je ne suis pas analyste, hein, je suis plutôt acteur, moi, donc je suis à fond. Donc on espère qu'on va voir le premier bateau à l'eau, on espère qu'on va avoir 4 à l'eau, 5, 6, qu'on va voir se généraliser à Nemos, et qu'on va voir, on va commencer dans la décennie 2020 à véritablement imposer le transport à la voile. Après, on a des idées pour... Encore après, on a passé les 8000 mètres, hein, on est en train de pioler, voilà, et on voit le sommet devant, on va y arriver, mais c'est d'un point de vue, moi, ce qui, personnellement, là, professionnellement, je suis complètement transcendé actuellement. Mmh. C'est des quantités de travail énormes, voilà.
Et juste une petite parenthèse sur le GNL, donc le gaz naturel liquéfié et l'hydrogène. Comme nouveau carburant, toi, quel est ton avis sur ces carburants alternatifs? Je pense que tu as un avis bien tranché.
Ah bah non, mais j'ai un avis de physicien. Le GNL, quand on regarde strictement le bateau, ses partisans vont vous dire qu'il permet de décarboner de 10% par rapport au pétrole. Quand on regarde le cycle du GNL, notamment son amont, hein, donc c'est du méthane qu'on extrait, hein, donc c'est évidemment un hydrocarbure, hein, donc on est content d'émettre 9 quand avant on émettait 10, ça reste quand même une énergie fossile qu'on émet, hein, dans l'atmosphère en mode « ouh, super, c'est la fête ». Le problème, c'est qu'en amont, il y a environ une trentaine de pourcents du volume du méthane qui est fuité, hein, et qu'on ne torche pas, c'est-à-dire qu'on ne brûle pas, hein, qui est directement émise dans l'atmosphère, parce que bah, déjà, il faut l'extraire du puits, il faut l'amener dans les centres où on va en fait les liquéfier, donc on va les descendre, on va les mettre sous pression, descendre en température, les mettre sous pression. Et ces 30% de volume émis dans l'atmosphère, qui ne sont évidemment pas du tout comptés quand on regarde stricto sensu le bateau, le méthane réchauffe l'atmosphère par un facteur 53 fois supérieur au CO2. Donc bravo, le GNL, c'est ce qu'on appelle un pis-aller, une fuite en avant. C'est le remède est bien pire que le mal. On veut regarder, et vous avez vu les dernières étraves des grands porte-conteneurs d'une compagnie que je ne citerai pas, l'étrave, donc c'est l'avant du bateau, qui sont peintes en vert, littéralement, illustrant le mot de green painting, si j'ose dire. Le GNL réchauffe infiniment plus l'atmosphère que le pétrole lui-même. Donc les ours blancs remercient le GNL et tout le greenwashing qui va autour. Les tenants et promoteurs des gaz, d'ailleurs, le savent très bien. Ils le disent dans le privé qu'eux ne sont pas là pour le réchauffement climatique. Ils sont là pour repartir sur une génération de navires qui va leur permettre de se faire encore un peu d'argent pendant 10-15 ans. Je pense que ce sont des gens fondamentalement irresponsables et qui crachent au visage de leurs propres enfants. L'hydrogène, alors rapidement, aujourd'hui la réalité de l'hydrogène, c'est qu'il vient du vaporeformage ou du craquage du méthane. Donc c'est nos amis de chez Total qui développent cette activité-là parce qu'ils ont racheté les activités gaz et GNL de chez Engie il y a 3 ans maintenant. Donc l'équation chimique, c'est rapide. Alors c'est CH4 plus O2, hein, égale CO2 plus H2. Hein, tu me suis, hein, donc on fait du méthane et de l'oxygène, et puis on va émettre du CO2 quelque part, là, dans une usine à gaz, littéralement, et on va sortir du H2, donc du dihydrogène, et on va faire de jolies bonbonnes de dihydrogène, et puis on va dire, après, regardez, ça émet de la vapeur d'eau, c'est écrit dessus hydrogène, donc c'est super. Et on omet évidemment de dire que en amont, on a non seulement émis du CO2 pour faire cet hydrogène-là, mais que ce méthane dont on parle a fait l'objet de fuites exactement comme le GNL en amont et lui-même réchauffe l'atmosphère énormément depuis le puits jusqu'à cette fameuse usine à gaz. Donc on est en train de mettre en avant un fauné technologique dont Macron parlait encore le 14 juillet, là, comme si c'était la panacée. Hein. C'est le mythe de la technologie qui va venir nous sauver de toutes nos problématiques, parce que c'est finalement assez anxiogène de penser qu'on arrive dans une planète qui, à l'horizon, c'est pas 2100, hein, c'est à l'horizon 2050, qui devient relativement inhabitable. Et qu'on est en train de foncer dans le mur. En fait, on se rend compte qu'on veut mettre en avant des technos qui sont souvent pires que le mal lui-même et qui risquent surtout de nous faire repartir sur une génération, parce qu'un navire, c'est des choses qu'on amortit sur plusieurs dizaines d'années, hein, c'est 20, 30 ans, et donc qui risquent de mettre en place des investissements, notamment de fonds publics, vers des technologies qui, en fait, sont encore pires en termes de réchauffement climatique que le pétrole lui-même, que le constat fondamental qui a présidé à Tao Transport à la Voile au niveau de notre activité actuelle et future, c'est de dire qu'il y a une énergie qui est disponible de façon abondante et parfaitement prédictible aujourd'hui au large, c'est le vent. Le voilier permet d'être extrêmement efficace en termes propulsifs sur une énergie qu'aujourd'hui on connaît très bien. Donc si on veut parler de décarbonation, il faut être très sérieux, il faut parler voilier cargo, et c'est la seule technologie scientifiquement efficace aujourd'hui. Sans parler du fait qu'on fait de la marine marchande et qu'il faut pouvoir avoir des leviers marchands et financiers pour promouvoir cette solution aujourd'hui, parce qu'on est évidemment le petit poussé, hein, le David... de l'histoire.
Alors on arrive à la fin de notre échange. À travers ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu aurais des conseils rapides à donner à ceux qui ont une envie d'aventure mais qui n'osent pas franchir le pas ? Moi personnellement, je suis impressionné par ta persévérance. Alors est-ce que tu aurais d'autres petits conseils à donner à ces gens-là ?
Déjà, il faut voir quelque chose. Il faut savoir qu'on voit quelque chose loin et être persuadé qu'on a raison, hein, pour des raisons objectives. Pas s'entêter dans une idée débile, je pense. Hein, mais au contraire, se dire le transport à la voile est fondamentalement une bonne idée, même si tout en 2010 porte à penser le contraire. Et ensuite, sachez que vous allez avoir énormément de personnes qui vont se moquer de vous, ouvertement ou dans le dos, des gens qui vont vous critiquer dans le dos et que vous allez avaler des kilomètres de couleuvres, qu'on va vous faire ramper sous des bureaux, qu'on va vous moquer en public, et que vous allez avoir quelques hauts, des moments d'euphorie, de rencontres humaines fabuleuses, des petits succès qui vous sembleront énormes, beaucoup de ups and downs, donc des hauts et des bas, beaucoup de bas, beaucoup de moments où on crève la dalle, hein. Enfin nous on mange du pain noir, hein, faut pas oublier ça, hein. Donc il faut être capable d'incarner une certaine mission, hein, et savoir qu'il faut tout le temps persévérer, ne jamais rien lâcher, savoir qu'on va vous demander beaucoup plus que n'importe qui, que vous allez avoir une vie bien plus difficile, que vous allez devoir travailler deux fois plus pour être payé souvent zéro, hein, ou 10 fois moins que ce que vous valez au moins au début, et que malgré tout ça, il va falloir continuer. Que si tout se passe bien, peut-être que vous ne perdrez pas d'argent. Les premières années, ça va être ça. Et que progressivement, vous allez avoir une certaine reconnaissance du fait d'être toujours là. Et ça n'est qu'au bout de quelques années de labeur que vous allez commencer à voir un petit peu plus clair sur véritablement où sont vos objectifs. L'aventure entrepreneuriale, comme toute aventure, hein, ou comme toute navigation d'une certaine façon, quand on part, on ne sait pas vraiment quelles vont être les conditions. Donc il faut être capable d'être réactif, de reconnaître qu'on se trompe, de changer d'avis, mais de ne jamais perdre le grand cap. Hein. Donc, ça demande beaucoup d'humilité, surtout pas se prendre pour... Voilà. Et puis du travail, je pense au bout d'un moment, enfin, moi, c'est un peu en travaillant sur moi, qu'en fait, on devient finalement très transparent, très intègre, très franc, que négocier, c'est jamais le couteau sur la table en train de négocier un bout de tapis, c'est au contraire parler de ses contraintes, hein, de, voilà, donc de pouvoir se communiquer, de pouvoir finalement s'aimer, hein, au sens aimer les autres autour de soi, c'est ça qui permet de tenir sur le long terme, et plus l'ambition est grande, enfin nous c'est le transport maritime, c'est quand même un truc un peu, c'est pas le plus facile, enfin je veux dire on n'est pas... plus ça va être dur et plus ça va être long, mais plus progressivement, on va se sentir habité un peu par cette notion de sens à donner, le sens qu'on donne aux autres, et puis on n'est plus tout à fait responsable. Moi, je ne suis plus tout à fait responsable tout seul de moi-même, là. Je me rends bien compte qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui espèrent qu'on va y arriver, qui vont tout faire. On a des clients. Donc, subitement, en fait, on devient un peu un projet collectif. Il faut savoir juste à peu près canaliser les énergies et aller au bout comme ça.
Ouais, c'est un retour d'expérience hyper enrichissant. Et je pense que tu montres justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut y arriver si on persévère et on suit tous ces conseils-là. Alors, pour terminer, je te propose une petite série de questions.
Ah,
si d'aventure.
Les questions.
Alors, tu es prêt? Donc, si d'aventure, tu devenais ministre de la mer, quelle serait ta première mesure?
Ah, eh ben proposer des dispositions de fiscalité aux propulsions véritablement décarbonées reconnaître les économies de CO2 au lieu du pavillon.
Alors, si d'aventure tu devais naviguer avec une personnalité de ton choix, avec qui naviguerais-tu?
Eric Tabarly.
Eric Tabarly, bon, ça.
Bah, il est plus là. Bernard Moitessier non plus.
Si d'aventure tu devais choisir un livre pour une sortie en mer, quel livre choisirais-tu?
Le vagabond des mers du Sud.
D'accord. Et enfin, si d'aventure, tu devais donner un titre à cet épisode du podcast, quel titre lui donnerais-tu?
L'aventure du transport à la voile.
L'aventure
avec
du transport
tirés.
À la voile.
Voilà.
Ouais, super. Bah, pour conclure, je rappelle l'adresse de votre site internet pour en savoir plus sur l'aventure Tote et passer commande sur la boutique.
Donc, merci beaucoup.
TOWT.EU. Et bah merci Guillaume pour cet échange
et
très sympathique.
François,
et François, transport
merci
à la voile.
Infiniment à toi, bon vent à toi, beaucoup
merci,
de persévérance.
Merci à toi également.
Je sais que tu es en train de prendre le bon cap.
Ça me fait plaisir et donc longue vie au transport maritime à la voile et à bientôt.
Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des Transitions sur Instagram et le soutenir sur Ulule. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure.